Fahrenheit 451, l'émission littéraire des livres qu'ils n'ont pas encore brûlés. Bonjour à toutes et tous, bonne année et bienvenue dans la première émission de l'année de Fahrenheit 451. Alors émission spéciale, puisque déjà mon collègue Olivier n'est pas là, il est retenu à cause du travail. Spéciale donc, puisque je vais vous proposer quelque chose d'original pour satisfaire vos envies de mots et vos envies de lecture. Émission que j'ai intitulée Clip littéraire. Le principe, il est très simple, je vais vous lire des extraits d'œuvres divers parsemé de musique, libre de droit, il va sans dire, sur Micro Rebelle. Alors au programme, sans vous révéler les auteurs et les livres que je vais lire, il y aura de l'anthropologie, de la critique de cinéma, de la philosophie fantastique et de l'atermoiement de la vie. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette émission spéciale. Et moi je vous dis au mois prochain, avec, je l'espère, mon collègue Olivier, pour retrouver le schéma classique de Fahrenheit 451. Allez, bonne émission, je vous dis au mois prochain, bonne écoute. Cyril Avecker, Le temps du rêve, la mémoire du peuple aborigène australien. Au commencement, il y a de cela des siècles et des siècles, après avoir accompli d'autres travaux, Bayamé s'endormit. Pendant son sommeil, il rêva de la vie telle qu'elle avait été dans le passé, telle qu'elle était dans le présent et telle qu'elle serait dans l'avenir. Au cours de son voyage dans le futur, il devint si nerveux que son rêve se transforma en cauchemar et que le corps de l'univers commença à frissonner et à s'agiter. Les vibrations de son corps ranimèrent ses aides d'une époque révolue, d'un autre espace et d'une autre dimension. Je veux parler de Nugena, la mère nature, Pungel, l'architecte de l'univers, et Yi, la déesse du soleil. À son réveil, ils étaient à ses côtés, et Pungel dit « Nous savons que tu veux créer ce rêve, nous t'aiderons à le matérialiser. » Ayant moi-même déjà pensé à un concept similaire, j'ai un plan sur la façon de s'y prendre. Il nécessite la création de millions de travailleurs pour construire ce grand édifice de vie. Et je pense que nous devrions faire cela en puisant dans ta suprême intelligence des millions de portions d'intelligence. J'aimerais les appeler Yowie, âme, et leur octroyer trois qualités inhérentes ainsi que le pouvoir de modeler toutes les formes qu'ils désirent. Cependant, ils auront besoin d'une motivation pour exécuter ce travail. Ils auront besoin de trois moteurs puissants. Premièrement, il leur faudra chercher de la nourriture pour construire et entretenir leur corps physique afin d'assurer leur survie. Deuxièmement, il leur faudra un instinct sexuel pour que chaque espèce vivante se reproduise. Troisièmement, il leur faudra l'ambition et le désir d'accomplir. Ces trois instincts seront la cause de toutes les difficultés et de tous les maux sur Tia, la Terre, ainsi que de tout ce qui est positif et productif. Chaque âme aura la volonté et la liberté de choisir entre l'action positive et l'action négative. Son choix dépendra de sa sagesse et de sa connaissance inhérente ainsi que de son niveau d'évolution. Les trois instincts furent donc attribués à chaque Yowi, en même temps que le pouvoir de modeler les formes. Le plan d'action cosmique visant à projeter la pensée créatrice de Tia fut discuté et rediscuté. Finalement, Pungel proposa de prendre les unités d'intelligence dans le corps de Bayamé, de les mettre dans un récipient et de les agiter en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les âmes pourraient alors être projetées par la pensée vers Tia dans un mouvement de tourbillon qui leur donnerait la force gravitationnelle requise pour voyager jusqu'à la Terre. Ils reconnurent tous que c'était la meilleure solution pour envoyer sur Terre leur création mentale. La grande masse se mit alors à tournoyer dans le corps de Bayamé jusqu'à ce que lentement le plan commence à se matérialiser. Les Yowi projetèrent de façonner une forme, exactement comme dans le rêve du grand esprit. Ils entreprirent la création de la forme primitive et Tia devient bientôt un corps solide. Mais tandis que dans un mouvement centrifuge, Tia prenait forme à partir du néant, la hiérarchie entra dans la nouvelle discussion sur la nature complexe de leur création. Réalisant quelles responsabilités ils avaient imposées aux Yowi en leur donnant trois instincts et le pouvoir de former la matière, ils décidèrent de leur octroyer une mémoire. sans quoi, avec le temps, un terrible chaos viendrait remplacer l'ordre cosmique et la raison. Punjel dit « Je vais leur donner deux autres corps. L'un, que j'appellerai Dowi, aura la forme d'un corps-esprit et sera le réceptacle de toute expérience individuelle. Il constituera une banque de données qui permettra aux créatures de se remémorer toutes leurs expériences précédentes. Cela facilitera leur travail sur Tia et apportera dans la création l'ordre et non le désordre. Comme ils auront besoin de protection l'un vis-à-vis de l'autre, il leur faudra un deuxième corps subtil que j'appellerai Mulowil. Cet écran les protégera des influences psychiques et émotionnelles engendrées par eux-mêmes et qui se constitueront autour d'eux. Le Mulowil servira aussi d'écran protecteur au Dowi. » C'était Cyril Avecker, Le temps du rêve, la mémoire du peuple aborigène australien. Jorge Luis Borges, fiction. La bibliothèque de Babel. L'univers que d'autres appellent la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable, 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Et si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques appelés lampes assurent l'éclairage. Au nombre de deux par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre, et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de mains pieuses pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable. Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire, avec un grand livre également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures, ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique, la bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagonal porte 5 étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages, incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. Avant de résumer la solution, dont la découverte, malgré ses tragiques projections, est peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. C'était Jorge Luis Borges, Fiction. Écoutez Fahrenheit 451, l'émission littéraire de Micro Rebelle, qui est diffusée tous les premiers vendredis de chaque mois sur microrebelle.fr. Serge Danet, Ciné Journal, volume 2, 1983-1986. Vue du bar. Il y a désormais trois sortes de bars à Los Angeles. Les vétustes qui n'ont pas la télé, les titus qui l'ont, mais uniquement pour regarder le baseball, et les branchés qui se sont mis à l'heure ABC. Vue du comptoir, ce jeu sont un succès, et le visage de momie douloureuse de Jim McKay, costume bleu, cravate rouge, illumine de son sourire peureux un grand nombre de boui-boui, des infâmes aux ethniques, des gays aux tristes, du matin au soir. Mardi soir, sur Sunset Boulevard, il n'y avait personne dans ce bar mexicain, The Sunset, pour regarder Carl Lewis enlever son survêtement et se préparer pour la médaille du saut en longueur. Et pourtant il l'enlevait. Et pourtant il se préparait. Et lorsque nous sommes arrivés downtown, dans ce bout de Japon cossu appelé Little Tokyo, la télé muette du Hamasushi faisait face aux dos indifférents d'une rangée de mangeurs de poissons crus. Carl Lewis avait déjà sa médaille, mais au Hamasushi, on s'en battait le sashimi. Jusque-là, pas de miracle. Sauf qu'au niveau des ratings, expression moins mensongère qu'indice d'écoute, ABC marque des points. Le miracle eut lieu ailleurs, à Chinatown, au coin de Oro Street, dans un bar chinois jouxtant un restaurant, une cantine immangeable à ce qu'il semble, appelé Yemilo. Le bar n'est pas grand, le comptoir ressemble à un hôtel bouddhiste, le junkbox recèle d'archaïques merveilles, et le patron, en chemise hawaïenne, à la morgue de ceux qui détestent tout le monde et la télé. Il y en a une pourtant, dans les hauteurs d'un angle inaccessible, et les buveurs de bière ne se lassent pas du spectacle de ces petites vignettes floues en noir et blanc. En volleyball, les USA rencontrent le Brésil. Brésil, hurlons-nous en sourdine, histoire de provoquer. En vain. Dès qu'il est clair que, malgré un beau sursaut, les Américains ne vont pas gagner le premier set, les buveurs s'en vont, nous laissant presque seuls en face du match. D'ailleurs intense et beau. C'est alors qu'un miracle cathodique s'est produit. Au moment d'une pub pour Apple, la petite pomme logo de cette excellente marque d'ordinateur devint rouge. Telle la fleur hibiscus dans le testament d'Orphée, sous le regard plus méfiant qu'ébahi du patron. La couleur revient d'un seul coup, d'abord avec des jaunes insoutenables, puis toute une gamme désordonnée de rouges baveux. Le visage de Jim McKay s'en trouve tout échymosé. Le patron du Yemilo parle de la couleur de son poste de télé comme d'une vieille maîtresse. Oui, elle est partie il y a 6 mois. Oui, elle finit toujours par revenir. D'ailleurs, excédé, il éteint la télé et ferme le bar. Toujours sur Sunset, détour, bar gay, vibre d'une musique qui ne tolère pas le partage des décibels avec une télé que d'aucuns regardent quand même. Des drapeaux américains, un billard et 3 flippers, les zéros olympiques correctement entrelacés, la bière exceptionnellement à 75 cents et une population musclée dans la pénombre. Peu de monde pour plaindre les Américains au moment où ils perdent définitivement contre les Brésiliens, 15 à 4 dans le troisième set. Ce pays n'aime pas les perdants, il ne risque donc aucune poulidorisation. La nage synchronisée a plus de succès. Émouvante et ridicule, toute saccadée et scandée, de plans sous-marins du plus bel effet. Tracy et Candy effectuent leur figure avec ce sourire figé qui fait penser à une sorte de lifting ontologique. Esther Williams, en personne, vient commenter, l'air sévère, le spectacle. Passe un extrait d'un de ses vieux films, Million Dollar Mermaid, chorégraphié par Buzzy Berkeley, puis une fantaisie aquatique beaucoup plus ancienne, avec Annette Kellerman, en foufrou, engloutie dans un rêve de cinéma muet. Il se passe que, peu à peu, la musique de la boîte et les mouvements des nageuses synchronisées entrent en phase. Que la télé n'a pas à être regardée pour que, via Esther Williams, les gays de détour, communiquent avec les gaietés des jeux. Gros orteils pointés vers le ciel des valeurs olympiques, jambes venues du fond marin, hors champ des sirènes, ont un franc succès. Premier bilan des bars. Une télé que l'on ne regarde pas, une autre qui retrouve ses couleurs, une troisième qui passe très bien du son, Jim McKay en carpe aphasique. Mais toutes trois à l'heure ABC, et de son logo sirupeux en forme de coulis sonore, We're with you on NBC. 80 millions d'Américains chaque soir regardent les jeux. Et quelle que soit la façon dont ces images sont consommées, le succès du network est tel que ses chefs envisagent de renoncer à demander au comité des jeux la remise des 15 millions de dollars qu'ils exigeaient en contrepartie du boycott soviétique. Les jeux sont un succès angelino. Cela tient à Los Angeles. Cette ville est comme un grand terminal. Ce n'est pas là que les images se créent, manquent trop d'énergie de base, ou alors cette énergie va ailleurs, dans une culture de corps instantané. Mais c'est là qu'elles finissent toutes. La dernière couche de cellophane, l'ultime congélation, la forme définitive du produit depuis des lustres, c'est l'affaire de Los Angeles. Et il en va des modes comme des images. Elles viennent ici pour se fixer, durer au-delà de leur temps. Et il en va des modes comme des images. Elles viennent ici pour se fixer, durer au-delà de leur temps de vie, cryogéniser à mort. Le calme plouc de la vie culturelle, Angelina, ce provincialisme impérial, n'ont rien à voir avec l'énergétisme d'une ville comme New York. Dans cette ville, tout champignonne, soit dans le sens d'une éruption ethnique, vitesse de démolition, transfert des populations, soit dans celui d'une sourde persévérance dans son être, rien ne se démode, soit visuellement, dans cette façon qu'ont les bâtiments et les écritures de se maintenir dans l'espace, pas très haut, aussi horizontal que des flaques de chaleur dans un mirage. Les Jeux Olympiques sont devenus une mode de plus au royaume des images incoulables. Bravo, Esther Williams. C'était Serge Danet, Ciné-Journal, volume 2, 1983-1986. Mars de Fritz Zorn. Le monde était là, devant moi, gris, hostile, et il fallait à présent que je me mette en devoir d'entrer dans la joyeuse vie d'étudiant. Dès le départ, il avait été entendu que je ferais des études supérieures. Entreprendre des études. C'était aussi ce que je préférais, puisque je n'avais aucune idée du métier que je ferais. Par conséquent, une fois que je serais étudiant, je pourrais repousser pendant des années la question importune du choix d'une profession. Comme je n'étais bon qu'en langue, de toute évidence, j'allais m'inscrire dans une section linguistique. Dans le cadre de cette discipline, c'était à moi de faire le choix, mais En fait, ce ne fut pas moi qui le fis. En effet, deux de mes condisciples, les seuls qui voulaient également étudier les langues, s'étaient décidés pour des études germaniques, si bien que, n'ayant pas de meilleures idées, je suivis leur exemple et choisis aussi les études germaniques. C'est ainsi, parce que rien d'autre ne se présentait pour moi, et que rien de plus intelligent ne me venait à l'esprit, que je devins étudiant. J'étais un étudiant très chic. Je portais toujours un pantalon noir, une chemise blanche, un veston bleu marine et une cravate noire. Ce qui avait l'air fort distingué et faisait l'effet d'un uniforme élégant. Mais déjà, je savais que ce costume, qui allait à un jeune homme comme un coup de poing dans l'œil, ne faisait qu'exprimer ma dépression qui me contraignait aussi à l'afficher avec mes couleurs de deuil. Je n'étais pas non plus naturellement un étudiant révolutionnaire. Il m'arrivait de rire de bon cœur des vilains gauchistes et de leur esprit tordu, car l'idée ne me serait jamais venue que j'aurais eu, moi aussi, la liberté de faire un choix politique, d'examiner la question et ensuite de faire éventuellement partie de la gauche. Il va de soi qu'en matière politique, je n'avais fait aucun choix. J'avais automatiquement rejoint la foule des braves gens qui, en l'occurrence, étaient tout bonnement de droite. Je n'avais pas examiné, puis rejeté les arguments de la gauche. Je savais d'avance que les gens de gauche étaient des individus ridicules qui avaient de toute façon des opinions erronées. Il ne faisait aucun doute pour moi que les gens de gauche ne pouvaient pas avoir raison, et par conséquent, si je voulais avoir raison, eh bien, je devais me ranger à droite. Cette prétendue décision, qui naturellement n'était en fait qu'une absence de décision, faisait aussi grand plaisir à mes parents qui pouvaient constater, une fois de plus, que leur fils était raisonnable, qu'il avait choisi le bon chemin. Une analogie frappante avec cette attitude se manifestait dans mes rapports avec les femmes à l'université. Je n'avais pas d'aventure scandaleuse, pas d'amour, pas de liaison et pas d'enfant naturel. Cela aussi était digne d'éloge. Je n'avais pas de problème avec les femmes, j'étais donc, sous ce rapport aussi, un brave étudiant sans problème, et j'épargnais à mes parents bien des chagrins et des soucis étant donné que je n'avais pas de ces amourettes dont notre monde harmonieux n'aurait vraiment su que faire. En d'autres termes, une fois de plus, tout tournait rond. C'était Mars de Fritz Zorn. écoutez Fahrenheit 451, l'émission littéraire de Micro Rebelle, qui est diffusée tous les premiers vendredis de chaque mois sur microrebelle.fr. Alain Damasio, la zone du dehors. Une jeune femme qui doit avoir 30 ans, impeccablement habillée et coiffée, élève une voix chaude du fond de la salle. Je trouve méritoire que des gens aient, comme votre ami ou vous-même, le courage de venir parler dans les lieux publics, comme ça, sans rien à vendre, simplement pour exprimer des convictions. C'est vrai, les petits jeunes, vous êtes courageux. Je dois vous avouer que j'étais persuadé, au début, d'avoir affaire à un incitateur. Puis après, j'ai pensé que vous étiez un gentil fou, un de ces sociopathes qu'on essaie de réadapter en milieu ouvert, qu'on laisse déambuler dans les rues pour les habituer à revoir du monde. Ça se fait beaucoup, maintenant. Merci. Oh, à la fin, j'ai bien vu que je me trompais. J'étais très impressionné par votre discours sur l'oreille, toutes ces manipulations que vous dénoncez. Néanmoins, je voudrais vous poser une question indiscrète. Allez-y. Vous êtes paranoïaque? Je veux dire, au dernier clastre, combien vous avez eu sur ce critère? 3 sur 10. Vous êtes normal. 3 sur 10, c'est normal. C'est encore plus troublant. Alors je vais vous poser une deuxième question. Vous n'arrêtez pas de dire « on nous manipule, on nous contrôle, on passe par nos yeux, etc. » Mais c'est qui ce « on » Vous ? Moi ? Vous tous ? Moi ? Nous ? Tous les citoyens ? Vous avez parlé à un moment des médias, des publicitaires, des ministres. Parce que certaines personnes ou certains groupes, par leur fonction et leur position stratégique dans le réseau social, impulsent plus facilement ce contrôle que d'autres. Mais elles le subissent aussi. Alors pourquoi les accuser, elles, si tout le monde est responsable de ce qui se passe? Ce phénomène que vous dénoncez, il est démocratique. Vous ne pouvez pas le condamner. Parce que pour vous, ce qui résulte d'une volonté démocratique n'est jamais condamnable. Bien sûr que non. Alors je vais vous préciser deux choses. Premièrement, une société de contrôle, de flicage, de tous par tous, aussi splendidement démocratique serait-elle, je la vomis. Et je la vomis pour des valeurs qui sont autrement vitales que ce triomphe à la régulière du conformisme, de la docilité et de la peur que vous cautionnez parce qu'issue d'une majorité. Je la vomis pour la liberté, pour que la vie souffle dans nos viscères, comme un ruisseau ardent. Je la vomis pour un espoir, que l'homme vaut mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Mieux qu'une chair filandreuse, que la moindre peur déchire. Mieux qu'un cerveau à câble qui fait du 0-1 ou ne pousse aucune friche. Mieux qu'un cœur argileux, gorgé comme une éponge, des larmes que personne ne sait plus pleurer. Comme toujours, le niveau de langage de Capt, son phrasé est précis, et ses images produisaient un effet d'écoute et de saisissement presque immédiat. Parler était d'abord chez lui un acte intérieur, une nécessité de solitaire qui cherche, avant d'être un talent public. Ses idées arrivaient dans sa gorge, déjà articulées, et elle en sortait armée, si bien que, avec lui devant, je n'avais plus besoin de forcer, juste à placer des fusées. C'était même un régal pour moi de me mettre en retrait et de le laisser évoluer au front. Cerclon n'est pas une démocratie. S'il faut se défaire de la paranoïa Big Brother, il serait tout aussi naïf de croire que le contrôle avilissant des corps soit exercé de façon égalitaire par tous les citoyens. Le contrôle est un phénomène très complexe, viral, de contamination. Je le vois comme un incendie, un drôle d'incendie, comme on en a vu tellement sur Terre pendant la guerre. À foyers multiples, avec des groupes de pyromanes perchés sur les hauteurs, des pompiers sous le vent, avec des lacs qui freinent la progression du feu, et des chairs nues dans le lac, des ruisseaux qui s'évaporent, et des porcs qui s'évacuent, des ministres près des rivières équipés de lance-flammes, des militaires cracheurs de feu, les cheveux roussis, dans la pampa. Avec au ciel des canadaires et des chimiquiers remplis d'essence, des caméras volantes qui repèrent les plongeurs, des biobombes qui tombent du napalm. Et partout des flammes et de la fumée, des prairies crépitantes, des forêts dévastées, partout le grondement du brasier qui se propage de fête en fête, et si peu d'arbres, de plein vent, sur qui le feu passe sans brûler, et qui ne propage rien qu'un peu de liberté. C'était Alain Damasio, la zone du dehors.
Thank you.
bien voilà, cette émission spéciale, la première de l'année pour Fahrenheit 451, touche à sa fin. Je vous rappelle que émission spéciale, puisque mon collègue Olivier n'est pas là. Il sera là normalement le mois prochain. Donc Fahrenheit 451, l'émission littéraire de Micro Rebelle qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Alors, pour ce mois-ci, je vous ai proposé donc des clips littéraires, donc avec des extraits d'œuvres vraiment variées que je vous ai lus. Alors le premier extrait que je vous ai lu, c'était un extrait du livre « Le temps du rêve, la mémoire du peuple aborigène australien » de Cyril Avecker. C'est édité aux éditions du Rocher dans la collection Le Mail. Ensuite, je vous ai lu un extrait de la nouvelle « La bibliothèque de Babylone » tirée du recueil de nouvelles fiction écrit par George Luis Borges dans une édition Folio. Ensuite, je vous ai lu la chronique « Vue du bar » du recueil « Ciné-Journal, volume 2, 1983-1986 » du critique de cinéma Serge Danet. Et ce volume 2, comme le volume 1, est édité à la Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma. Ensuite, le quatrième extrait, c'était un extrait du livre « Mars » écrit par Fritz Zorn dans une édition Folio. Et enfin, j'ai terminé avec un extrait de La zone du dehors, écrit par Alain Damasio, dans une édition de Folio collection science-fiction. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces extraits. Il y a de fortes chances que quelques ouvrages soient chroniqués dans des émissions futures de Fahrenheit 451. Alors, la musique, et la musique libre, grand pilier de Micro Rebelle. Au générique et les transitions, c'est le morceau Genuine du groupe suisse Massico, tiré de leur album Morse. Et pendant l'émission, entre les clips littéraires, je vous ai passé plusieurs morceaux tirés de la compilation du label Chill Hops Records. Donc la compile, c'est Chill Hop Essentials. Winter 2016. Et je vous ai passé, alors le premier morceau que nous avons écouté, c'était un morceau de l'artiste bureaucratique Lovely Rita. Ensuite l'artiste Nimano avec I Wish I Could Sleep. Ensuite un morceau de l'artiste Juan Rios Pine Trees. Puis un morceau de l'artiste l'indécis Rick Edling. Et on a terminé avec Limes et son titre Wonderland. Et on va se quitter avec un dernier morceau de cette compile de l'artiste Monomassive, Blue Down. Je vous retrouve le mois prochain pour un prochain Fahrenheit 451, qui j'espère sera de forme classique, avec des chroniques et des extraits lus des livres chroniqués, avec mon compère Olivier. J'espère que vous allez passer un très bon mois de février. Je vous retrouve le premier vendredi du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !